s'appelle Gabriel Muesca. Il a passé 17 ans derrière les barreaux. Depuis sa libération en 2001, il a fait de la défense des droits et des libertés fondamentales des personnes détenues son cheval de bataille et l'essentiel de son activité professionnelle. De la Croix-Rouge à Emmaüs, en passant par l'OIP qu'il a présidé pendant 5 ans, Gabriel Muesca n'a pas ménagé son engagement. Le 8 décembre dernier, pourtant, la Cour d'appel de Pau lui a refusé sa requête en réhabilitation, l'ultime étape vers un retour à la citoyenneté. Réinséré, mais pas réhabilité, c'est notre sujet ce matin. Bonjour Gabriel Muesca.
Bonjour à vous et à tous vos auditeurs et auditrices.
Un grand merci Gabriel d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous donner la parole et de faire entendre à travers vous la voix de ceux qui ont malheureusement rarement l'occasion de s'exprimer. Alors, si vous voulez bien, on va faire les présentations. Ça fait 20 ans que vous êtes sorti de prison. Ce sont vos activités de militant au sein d'une organisation politique basque qui vous y avez conduit. Aujourd'hui, Gabriel Muesca, vous êtes marié, vous avez deux filles. Alors, à la question profession du père sur les formulaires scolaires, elles remplissent quoi, les petites ?
Ben, tout simplement, ce qui est sur ma fiche de paye, c'est-à-dire directeur d'atelier chantier insertion. Évidemment, je mets la notion d'Emmaüs, parce que nous sommes donc un ACI estampillé Emmaüs. Et je veux parler évidemment de la ferme Emmaüs, Baudonne.
Ferme Emmaüs, dans les Landes, je crois, hein ?
Oui, tout à fait, à Ternos.
Alors, Gabriel, vous êtes sorti de prison en 2001. Depuis quand est-ce que vous considérez que vous êtes réinséré ?
Ça, c'est une question intéressante, parce qu'il n'y a pas, en fait, de jour où on peut considérer qu'on est réinséré. La réinsertion est une affaire, j'allais dire, de longue haleine, j'allais dire, ad vitam aeternam. Et aujourd'hui, encore 20 ans après ma sortie de prison, je vis encore avec les stigmates de la détention. Par exemple, à l'heure où je vous parle, présentement, je suis en train de marcher presque 6 pas sur 6 en portant mon téléphone. Et c'est ce qui m'arrive chaque fois que je téléphone. Et bien souvent, quand je suis dans mes réunions, je suis aussi en train de marcher comme ça, plusieurs pas, comme du temps où j'étais un peu comme un lion en cage, parce que j'ai vécu dans mes 17 années de prison aussi 3 ans d'isolement total. Et ça m'a fait, j'allais dire, durablement des stigmates que je porte encore aujourd'hui.
Alors justement, vous allez nous dire, on est comment ? Dans quel état on sort de 17 ans de prison ?
Mais je pense qu'on sort d'abord comme dans l'état comme on est rentré, c'est-à-dire que si vous êtes rentré en prison totalement désocialisé, sans famille, sans culture, sans beaucoup de choses, eh bien vous ressortez dans la même situation et en pire, évidemment, parce que la prison n'a pas arrangé les choses. Et puis pour ceux qui ont eu la chance, et c'est mon privilège, d'avoir été accompagné dans leur vie, éduqué, avoir un travail, etc., eh bien on ressort, j'allais dire, relativement bien. Mais il n'empêche que nous devons toutes et tous être soutenus, accompagnés pour que ce qu'on appelle la réinsertion soit une réussite.
Et justement, c'est quoi les ferments de la réinsertion ? Vous parlez de votre famille, elle ne vous a jamais laissé tomber, votre famille ?
Oui. J'ai coutume de dire en une phrase ce qui est essentiel. La réinsertion, il faut être aimé et aimé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais que, bien évidemment, on s'attend souvent à ce que je sorte des analyses sociologiques, des statistiques et autres. L'essentiel, quand vous parlez de la prison, c'est être aimé et aimé. C'est ça qui est le fondamental concernant l'idée qu'on puisse retrouver la famille humaine au sortir de la prison et qu'on trouve sa juste place.
Être aimé et aimé, vous avez conscience, Gabriel, du paradoxe tout de même de cette injonction, notamment vis-à-vis de la société. On parle de personnes qui sont allées en prison, a priori des personnes qui ont commis des actes répréhensibles.
Oui, bien évidemment. Mais dès le départ, il ne faut pas résumer une personne, quoi qu'elle ait fait, au fait qu'elle a posé, qu'elle a commis. Moi, j'invite vos auditeurs et vos auditrices à rencontrer des gens qui sont confrontés à l'appareil judiciaire. Je les invite à aller dans les tribunaux en particulier, qui sont lors des audiences en correctionnel, et à écouter les témoignages des personnes qui sont poursuivies. Je puis vous assurer qu'en restant quelques heures uniquement dans ces lieux où la vérité est mise à plat, grâce au travail des magistrats, vous vous rendrez compte d'une seule chose, qui est évidente, c'est que l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui présentées devant les tribunaux et donc l'ensemble des personnes qui sont dans les prisons sont des gens qui ont été pas aimés ou mal aimés. Voilà. Le fondement des cheminements délinquants, voire criminels, sont des cheminements d'hommes et de femmes qui n'ont pas été aimés. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne souffre pas de contestation.
Alors, vous dites que la réinsertion est un lent combat quotidien et qu'aujourd'hui, à votre façon de marcher, quand vous êtes au téléphone, il en reste des stigmates. Est-ce qu'il y a eu des étapes dans ce lent processus? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les grandes lignes de votre parcours depuis 2001, depuis votre sortie de prison?
Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Et je le dis, je ne veux pas me présenter comme un ancien prisonnier lambda. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont accompagné. Évidemment, la première fois, c'était la Croix-Rouge française qui m'a ouvert ses portes dès la sortie de prison. J'ai été donc le monsieur prison, le chargé de mission prison au niveau national de la Croix-Rouge française, une institution très aidante, une institution qui intervient dans les prisons françaises. Et j'ai donc contribué à former les bénévoles et les professionnels qui interviennent dans le champ carcéral. Et puis, j'ai été président de l'Observatoire international des prisons. C'est une institution, comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, qui défend les droits et la dignité des personnes détenues. Ça a été une charge importante, quelque chose de fondamental dans ma reconstruction, de pouvoir aider ceux que j'ai laissés derrière moi, et en particulier sur le domaine qui, pour moi, est fondamental là aussi, c'est la défense de la dignité, parce que la prison, par essence, est un outil social bien trop souvent attentatoire à la dignité des personnes humaines, et on sait que quand une personne voit sa dignité touchée, bien souvent c'est une blessure qui ne guérit jamais. Donc après l'OIP, j'ai été à Emmaüs France, j'ai fait une expérimentation sociale pendant 2 ans à la demande du gouvernement de ce temps-là. C'était justement sur la cause des prisonniers pauvres et comment les permettre d'accéder à ce qu'on appelle les aménagements de peine. Et puis je suis revenu au Pays Basque pour boucler la boucle. En effet, j'ai été un acteur de ce qu'on appelle le processus de paix au Pays Basque et je m'y suis engagé aussi là aussi de façon extrêmement déterminée. Et puis depuis 3 ans donc, je suis à la tête de la ferme Emmaüs Bodon à Ternos.
Gabriel Mouesca, est-ce que la nuit dans vos rêves, vous êtes libre ou vous êtes encore derrière les barreaux?
Vous savez, quand on parle de rêve en prison, la pire des choses qui arrive à tous les prisonniers au bout de quelques années de prison, c'est que même le champ du rêve est habité par la prison. C'est-à-dire que les rêves, vous les faites dans l'environnement carcéral. Vous ne rêvez plus de vos montagnes, de votre village natal, vous ne rêvez plus de l'extérieur. Dieu merci, la situation a évolué considérablement en 20 ans. Et aujourd'hui, le champ de mes rêves est habité, bien évidemment, par la beauté du pays dans lequel j'habite. Et les rencontres que je puis y faire au quotidien avec de belles personnes.
Alors, Gabriel Mouesca, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes un ancien prisonnier, 17 ans derrière les barreaux. Pour vous, votre activité dans une organisation basque, vous avez été libéré en 2001. On est ensemble pour parler de la question de réinsertion, de réhabilitation. Et ceci pour une raison. Le 8 décembre 2020, votre requête en réhabilitation a été refusée par la Cour d'appel de Pau dans une lettre ouverte adressée à la présidente de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Pau. Vous écrivez: par votre décision, madame, vous m'imposez de rester un sous-citoyen privé d'une partie de ses droits et non des moindres. Lesquels en particulier, Gabriel?
Eh bien, les droits civiques, les droits politiques. Je ne peux pas voter. C'est quelque chose pour moi qui était très important. Vous l'avez rappelé, j'ai eu un engagement politique dans ma prime jeunesse. La notion de citoyenneté est pour moi extrêmement importante. Et aujourd'hui, continuer à ne pas pouvoir voter, par exemple pour moi, est une difficulté que je vis de façon extrêmement douloureuse. Je rappelle que j'ai été à la tête de l'OIP, donc il y a un statut consultatif auprès de l'ONU. J'ai mené des travaux qui sont, j'allais dire, relativement importants. Et le fait est qu'aujourd'hui, je suis un sous-citoyen. Je n'ai même pas le droit de voter. Et j'espérais que le fait que j'ai été en justice il y a de cela quelques semaines me permette de retrouver ma dignité citoyenne. Cela m'a été refusé.
Et alors, est-ce que c'est fréquent qu'un prisonnier qui a payé sa dette, quand même 17 ans en prison, continue d'être privé de ses droits aussi longtemps après? Est-ce que c'est quelque chose
non,
de fréquent?
Non. Heureusement, la loi a évolué depuis les années 90. Aujourd'hui, il faut que le prononcé soit fait à la barre. Et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes condamnées qui ont toujours leur droit civique et politique. Il y a même, des personnes condamnées à la peine de prison à perpétuité qui ont la possibilité de voter en France. Et c'est vous dire si ma situation est incongrue dans ce contexte-là.
Et oui, alors, et surtout, il y a quelque chose que nos auditeurs doivent savoir, c'est que ce n'est même pas vous qui avez fait cette requête, c'est le garde des Sceaux lui-même, le ministre de la Justice, qui voulait vous proposer un poste très important. Lequel ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est fou, cette histoire.
Oui, le 8 octobre dernier, j'ai eu un appel téléphonique assez surréaliste. C'est donc M. Éric Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux, qui m'a téléphoné et m'a proposé le poste de contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce qui était évidemment un petit peu bousculé, hein, vous imaginez la situation. Et puis, quelques heures après, c'est le conseiller politique pénitentiaire, M. Donner, qui m'a téléphoné pour m'indiquer qu'il fallait engager une procédure pour de réhabilitation afin que je sois concernant la procédure d'embauche, de recrutement en phase avec les tests officiels. Et donc c'est à cette initiative-là que j'ai répondu pour m'engager dans une procédure de réhabilitation. Et je me suis trouvé face à un tribunal à Pau qui m'a, rejugé comme on m'avait jugé il y a 30-40 ans de ça, et en utilisant les mêmes termes, y compris en lisant un texte de 1999 qu'avait écrit un juge d'application des peines. Bref, le temps n'avait pas changé, et surtout, aux yeux des magistrats, je n'avais pas changé depuis les années 80.
Et ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la décision de la juge ? Qu'est-ce qui l'anime, selon vous ? Un esprit de vengeance ?
Tout d'abord, je dois dire que je rencontre au quotidien des magistrats qui font honneur à leurs responsabilités et qui ne confondent pas la notion de justice et de vengeance. Il se trouve malheureusement, et en l'occurrence, ça s'est trouvé malheureusement pour moi devant la cour d'appel de Pau, il y a des magistrats qui effectivement enferment les personnes dans ce qu'elles ont été, dans ce qu'elles ont fait, dans ce qu'elles ont commis un moment de leur vie. J'allais presque dire le casier judiciaire où le regard de cette personne est un peu comme un enterrement, comme un caveau dans lequel je serais plongé ad vitam aeternam. Voilà le souci, mais je le répète, je ne confonds pas cette dame et sa décision avec l'ensemble de la profession qui, Dieu merci, remplit sa mission de façon tout à fait digne.
Ça, c'est dit. Et de quoi elle est le reflet, selon vous, tout de même, la décision de la juge qui vous refuse cette réhabilitation ? Est-ce qu'elle, quelque part, c'est aussi la réprobation de la société, les personnes détenues, hein, c'est pas l'engagement associatif qui recouvre le plus de bénévoles, la réprobation de la société sur celui qui a fait de la prison, comme si vous étiez les mauvais définitivement lavés.
Je pense qu'il y a effectivement, nous avons, la France a un problème avec ses prisons. La société en général, les hommes et les femmes ont un regard qu'ils portent sur l'institution, déjà qui est un regard qui entraîne un certain mépris, mais aussi sur les personnes qui sont maintenues par décision de justice. Il y a une volonté de s'écarter ou de s'imaginer plus propre que les personnes qui sont détenues. La détention a toujours été une forme de ce qu'on appelait dans le temps, excusez-moi le terme qui n'est peut-être pas très judicieux, mais la tête de turc de la société, c'est le prisonnier, c'est le mauvais garçon, la mauvaise fille. Alors que si les gens, comme je vous le disais précédemment, étaient amenés à connaître les raisons des cheminements délinquants, eh bien je pense que bien souvent on comprendrait, on expliquerait, mais sans justifier bien évidemment, on comprendrait pourquoi ces personnes ont été amenées à commettre des écarts vis-à-vis de la loi de la République.
Sans justifier, évidemment. Hein. Alors, Gabriel Mouesca, je crois que vous avez la foi en Dieu au regard de notre échange sur ce thème de notre entretien que j'ai intitulé « Réinsérer mais pas réhabiliter ». Comment est-ce que la foi vous a aidé ?
Oui, je suis chrétien, je ne le cache pas. Ma famille a toujours été au sein de l'Église. J'ai un oncle que j'ai une père aussi qui est la personne la plus importante dans ma vie, dans ma constitution, qui était missionnaire aux missions africaines. Et la foi est importante. Vous savez, la première chose que je faisais chaque jour, je prenais le petit livret « Prions en Église » vers 6h30 du matin et je lisais l'évangile du jour. Et je lisais l'évangile du jour parce que j'étais persuadé, et je le vivais ainsi, et c'est une vérité pour moi, que les paroles de l'évangile me permettaient d'avoir ce surplus d'énergie pour être confronté à une journée qui serait une journée attentatoire à mon équilibre. Et l'évangile, la vie du Christ, a été un élément fondamental pour mon maintien debout, en détention, debout.
Ce maintien debout, et puis on évoquait le fait qu'il soit difficile d'être réhabilité par les hommes, réhabilité par Dieu. Vous l'êtes, Gabriel Mouesca?
Ça, je pense que je le saurai lorsque je serai face à lui. Ce n'est pas le moment, bien évidemment, mais je pense que j'aurai beaucoup plus de regard fraternel face à Dieu que je n'en ai eu jusqu'à ce jour de la part de beaucoup de gens qui m'ont jugé, qui m'ont fait souffrir, parce que, évidemment, on est malheureusement dans une société où on applique quelque part la loi du talion. On fait souffrir ceux qui ont fait souffrir. Et c'est quelque chose au début du 21e siècle qui me semble encore une aberration. Je suis sûr que dans 2-3 générations, nos petits-petits-enfants nous regarderont en nous disant « Mais n'avez-vous pas eu honte de maintenir des gens dans cette situation ? N'y avait-il pas d'autre façon de sanctionner ? Des sanctions qui relèvent, des sanctions dans lesquelles il y aurait du gagnant-gagnant, les victimes bien évidemment, la société et les personnes mises en cause. Je crois, et c'est le travail que j'accomplis aujourd'hui et que nous sommes un certain nombre à accomplir au quotidien, je crois que nous pouvons parvenir à ce que les personnes qui ont commis des actes délictuels, y compris aussi criminels, puissent être soumis à des sanctions, ce que j'appelle citoyennes, des sanctions qui ne dégradent pas, mais qui permettent aux personnes de se remettre debout et retrouver un jour leur juste place dans la société.
Un immense merci, Gabriel Mouesca, pour la force de votre témoignage. Réinsérer mais pas réhabiliter, c'était notre sujet avec vous ce matin. Un grand merci, Gabriel Mouesca.
Merci à vous.